Merci d'écouter Radio Kapi, les 18h à l'Olifa dans l'Équateur, une heure de plus à Luhihi, au sud Kivu, le journal.
Radio Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Le Conseil national de suivi de l'accord recommande au président du bureau de l'Assemblée nationale de rechercher le consensus sincère et le plus large possible sur la nouvelle loi électorale sous examen à l'Assemblée nationale. Ceci est contenu dans une correspondance signée par le président de CNSA. Ituri, les opérations militaires FARDC-UPDF se poursuivent normalement à Bogachabi dans l'Ituri, ce malgré la déclaration du commandant de l'armée ougandaise annonçant le retrait de ses troupes de la RDC incessamment. En réaction, le porte-parole du gouvernement congolais indique que cette mission prendra fin sur décision des chefs d'État des deux pays concernés. Et puis, le sénateur Jérôme Bikenge est notre invité ce soir, représentant le président du Sénat à la cérémonie du sacre du nouvel évêque du diocèse de l'église anglicane de Kalima, au Maniema. Jérôme Bikenge se dit surpris de voir le territoire de Pangui qui fournit les minerais au pays rester pauvre et sans route, dit-il. Madame, Messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal par cette correspondance du Conseil national de suivi de l'accord CNSA adressée au bureau de l'Assemblée nationale et parvenue à Radio Kapi ce mercredi. Cette correspondance, signée par Joseph Olingankoy, président de cette structure, porte sur la recherche du consensus national sur la nouvelle loi électorale sous examen à l'Assemblée nationale. N'est-ce pas, Paul Matendo Mayamba?
Oui, à lire cette correspondance, justement, le Conseil national de suivi de l'accord CNSA est clair. Il recommande particulièrement au président du bureau de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga, de rechercher les consensus sincères et le plus large possible sur cette question d'intérêt vital entre les acteurs politiques, sociétés civiles et forces vives de la RDC. Pour ce faire, la même source encourage les députés nationaux à traiter cette question avec la plus grande attention, toujours dans la recherche d'un consensus sincère afin d'éviter au pays des événements malheureux de nature à rompre la paix chèrement acquise, dit Joseph Olingankoy, avant de demander au président du bureau de la Chambre basse du Parlement de tout faire pour obtenir ce consensus au risque d'assumer seule la responsabilité devant la nation et l'histoire. Cette lettre rappelle toujours à l'intention des députés nationaux, je cite, l'actuel chef de l'État est un produit et les résultats d'une très longue lutte menée par son père et beaucoup d'autres de ses compagnons et compatriotes qui ont eu à verser de leur sang jusqu'au sacrifice suprême pendant plusieurs décennies pour un État réellement de droit. Fin des citations.
Par ailleurs, la MONUSCO salue les efforts du président de l'Assemblée nationale tendant à favoriser l'inclusivité de la révision de la loi électorale en cours d'examen à la Chambre basse du Parlement, mais tout en regrettant certaines décisions prises aussi bien du côté de la majorité que de l'opposition autour de cette loi. Déclaration du porte-parole de la mission onusienne ce mercredi au cours de la conférence de presse des Nations Unies à Kinshasa, les propos de Mathias Gilman, sélectionné par Honoré Misenga Kalala.
Les Nations Unies regrette que l'opposition conditionne sa participation aux travaux à la réouverture d'une décision déjà actée par les institutions du pays. Les Nations Unies regrettent également que le 12 mai, en plénière, les députés de la majorité se soient prononcés contre la publication des résultats par bureau de vote ou encore contre des propositions qui garantiraient la présence des femmes sur les listes de candidats. Adopter une loi électorale garantissant la transparence et l'inclusivité des élections à tous les niveaux et à toutes les étapes pour réduire les tensions politiques, institutionnelles et préélectorales et faciliter la préparation des scrutins de 2023 est essentiel et nous encourageons toutes les parties prenantes à faire preuve de flexibilité concernant les moyens d'atteindre ces objectifs. La MONUSCO reste disposée à soutenir toute initiative constructive et inclusive allant dans le sens de l'unité et de la cohésion nationale.
Les Nations Unies estiment que la révision de la loi électorale représente l'une des dernières opportunités de renforcer les mécanismes de transparence et de redevabilité susceptibles de garantir des élections de qualité et de restaurer au moins en partie la confiance entre les parties prenantes, a ajouté le porte-parole de la MONUSCO. Entre-temps, dans le Haut-Katanga, le forum sur l'unité et la réconciliation des Katangais était à sa deuxième journée aujourd'hui. La plupart des participants sont optimistes quant à l'issue heureuse de ces assises. Cependant, ils tirent la sonnette d'alarme sur le climat qui doit y régner pour éviter que la réconciliation tant souhaitée par tous ne soit des façades. On écoute à ce sujet le professeur Witt Mulongo, un proche de Moïse Katumbi. Il est au micro de Jean Gandou.
Ce qui me plaît beaucoup, c'est surtout le fait qu'on n'a pas appelé les gens pour les garrotter. C'est ouvert, surtout la liberté qu'on nous a laissée de nous parler. Même s'il faut nous marcher dessus, eh ben, qu'on se marche dessus, mais pas méchamment, nous dire de vérité. Je crois qu'à partir de maintenant, on va éventrer les boas. Mais le plus important, c'est que vous sentez qu'au-delà de tout ça, tout le monde semble avoir été fatigué de la division des Katangais et que tout le monde rêve qu'au bout de ceci, qu'on s'accepte en tant que frères et sœurs, mais dans nos différences. C'est ça qui apparaît, espérons qu'il en sera ainsi. Si les gens confondent un lieu de discussion pour des solutions à un lieu folklorique, si la sincérité manque, si nous restons dans l'hypocrisie qui était devenue presque légendaire, ça ce sont des écueils qui peuvent faire en sorte qu'on termine, on se serre la main, mais au-dedans de nous, on reste comme ça. Vous connaissez mon problème à moi. Tout le monde sait ce que j'ai connu. Mais si on n'en parle pas avec mes frères et qu'eux aussi acceptent que c'était pas bien, ça risque d'être des façades.
Je vous le disais en titre, en Ituri, les opérations militaires conjointes entre les FARDC et l'armée ougandaise se poursuivent normalement dans la région de Bogachabi, au sud-est du territoire d'Irumu, ce malgré la déclaration du général Muhoozi Kainerugaba, commandant de la force terrestre de l'armée ougandaise, annonçant le retrait de ses troupes du Congo dans les deux prochaines semaines. Sur le terrain, environ 14 localités jadis bastions des EDF sont déjà sous le contrôle des deux forces en l'espace de 3 mois d'opérations conjointes, indiquent les FARDC. Entre-temps, le porte-parole de l'armée ougandaise se réserve de confirmer la déclaration du général Muhoozi. Martial Kizabiamungu nous en dit plus.
C'est depuis le début du mois de mars que les FARDC et les UPDF ont lancé les opérations contre l'opposition des rebelles des ADF dans la région de Boga et Tchabi, au sud-est du territoire d'Irumu. Selon des sources militaires, 3 mois après, les deux armées ont réussi à récupérer plusieurs localités jadis sous contrôle des ADF. C'est notamment Zunguluka, Masiza, Mbipa, Machili 1 et 2, Baitata, Belou, Bwakadi, Katanga et Nyakisozi. Par ailleurs, les deux forces ont mené d'autres opérations des traques de l'ennemi à Batonga, Tondoli, Bulango et Mitembo. Plusieurs sources militaires du côté des FARDC et des UPDF à Boga affirment que les opérations conjointes continuent normalement dans la profondeur de la forêt de Zunguluka. En rapport avec le soi-disant retrait des troupes ougandaises de l'est de la RDC d'ici à 2 semaines, les porte-parole de l'armée ougandaise contacté ce mercredi depuis Kampala, le général Félix Kalaïgué dit, je cite, « Je ne suis pas à mesure de confirmer à ce stade de cette information. » Fin de citation. Dans la capitale ougandaise, à Kampala, plusieurs sources proches des officiels affirment que les parlements ougandais mettraient la pression sur le gouvernement pour retirer ses troupes de la RDC à cause du coût de cette opération militaire. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
En réaction, le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement congolais indique qu'il est prématuré de dire que les opérations militaires menées conjointement par l'armée ougandaise et les FARDC contre les EDF prendront fin dans 2 semaines. Selon Patrick Muyaya, cette mission prendra fin sur décision des deux chefs d'État après l'évaluation de la situation militaire sur le terrain. Il a déclaré au cours de la conférence de presse tenue hier à Kinshasa aux côtés du gouverneur militaire de l'Ituri. Le ministre Patrick Muyaya est au micro de Paul Matendo Mayamba.
Il a fait 2 tweets. Dans un premier tweet, il a dit effectivement qu'il y avait les opérations suivant le calendrier et l'accord qui a été convenu devraient durer 6 mois. Mais lui-même est revenu pour dire, voilà, que les opérations se termineront lorsque les deux chefs d'État décideront. Parce qu'en réalité, il y a eu des raisons dont on a déjà longuement parlé ici qui ont motivé les opérations militaires entre l'armée nationale, la nôtre, et l'armée ougandaise, dictée par une menace commune, celle des ADF. Au bout des 6 mois, il y a eu certes des avancées, mais avant qu'on ait décidé de mettre fin à ce qui avait été convenu, je crois qu'il y a des réunions des états-majors qui permettent d'évaluer la situation et les degrés d'évolution par rapport aux objectifs initiaux. Et en ce moment-là, on va estimer Les militaires vont dire là, nous pouvons nous arrêter parce qu'il y a tant du côté ougandais que du côté congolais des points focaux. Pour l'instant, il est prématuré de dire si les choses se feront de cette manière-là.
Au Nord-Kivu, pendant ce temps, les leaders communautaires saluent et s'engagent dans la voie de la pacification et de la stabilisation de l'Est de la RDC. Ils se sont ainsi exprimés à travers un mémorandum remis ce mercredi à Goma à l'équipe mixte gouvernement kényan, présidence de la RDC et la communauté internationale. À l'issue de leur rencontre avec la délégation, ces leaders ont salué à juste titre le programme ambitieux du processus de paix qui a commencé le mois dernier à Nairobi. Le directeur adjoint de la communication de la présidence de la République revient ici sur les conclusions de cette première étape de ce rendez-vous. Giscard Koussema est au micro de Gabriel Ouamenia.
Tous les représentants communautaires d'abord saluent cette initiative. Tous ont fait chacun la lecture des faits. De manière unanime, ils reconnaissent également qu'il y a un lien clair entre les groupes armés et les leaders communautaires. Il y a une certaine influence. Voilà pourquoi ils ont tous lancé des messages de paix pour qu'il y ait d'abord cessation des hostilités pendant cette période. Et puis aussi, ces leaders communautaires s'investissent dans la sensibilisation de ces groupes armés qui s'est dans leur milieu de vie. L'appel a été lancé à tous les groupes armés et aussi on se réfère au communiqué du dernier conclave des chefs de l'État. Il y a deux voies à suivre. La première, elle est pacifique, c'est celle-là justement qui nous unit ici à Goma pour ensemble trouver une solution pour mettre fin. Mais pour d'autres, ils seront contraints par la force. Et la force, c'est également l'option prise au niveau de l'espace East African Community. Tout réfractaire aura un traitement qui s'adapte à son attitude belliqueuse.
Notez que la deuxième étape de la réunion de ce mercredi prévoyait une rencontre avec les responsables des groupes armés locaux, a ajouté Giscard Koussema. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi le début ce mercredi du recouvrement forcé de la vignette exercice 2020 pour les engins motorisés dans la ville de Kinshasa. Les agents de la police et de la DGRK, la Direction Générale des Recettes de Kinshasa, étaient sur le terrain depuis ce matin et cela a occasionné des bouchons. Les propriétaires de plusieurs véhicules non en règle ont préféré garder leurs engins à la maison. Autre conséquence, plusieurs personnes ont traîné aux arrêts de bus en attente des moyens de transport. Notez que cette opération, initialement annoncée en décembre dernier, avait été reportée pour permettre à tous les assujettis de s'y mettre en ordre. Examen d'État, édition 2022. Les épreuves hors session débutent le 23 mai prochain sur toute l'étendue de la RDC. À la province éducationnelle de l'EPST Équateur 1, 11 068 candidats sont attendus à ces épreuves et chacun doit payer 82 000 francs congolais pour les épreuves hors session, conformément à l'arrêté du gouverneur de province. Cependant, certains parents ont dénoncé la majoration de ces frais par certains chefs d'établissement, raison pour laquelle le directeur provincial de l'EPST Équateur 1 a réagi énergiquement. Hervé Mungeta exige aux parents de fournir des preuves et promet des sanctions à l'encontre de toute autorité scolaire coupable de cette pratique. Le directeur provincial de l'EPST Équateur 1 est au micro de Paul-Richard Malengela.
L'arrêté du gouverneur, non, les frais sont fixés à 82 500 pour les épreuves hors session et 75 000 pour la session ordinaire. Et jusqu'à la preuve du contraire, nous attendons qu'on attrape ne fût-ce qu'un seul préfet qui a majoré les frais. Qu'est-ce que nous avions fait? Et nous avions demandé aux parents d'aller payer les frais à l'inspection pour les parents qui sont ici. Et au niveau de l'intérieur ou même au niveau de la ville, celui qui va tomber sur un préfet qui va demander plus, qu'il prenne le courage de venir dénoncer les noms de l'école et les noms de ses préfets. Mais très souvent, il y a un parent qui vous appelle au téléphone, non, chez nous on a majoré au lieu de 75 000, ici c'est 120 000. Mais papa, quel est le nom de l'école? Quel est le nom de l'enfant? Non, je ne peux pas citer le nom de mon enfant, il risque d'avoir des problèmes. C'est comme ça, nous appelons ça des fois des allégations. Nous avons mis les services de sécurité à contribution pour que nous puissions décourager tout le monde qui tomberait dans ces pièges-là que nous avions tendus. Néanmoins, nous avions demandé aux parents de venir payer l'argent à l'inspection quand ils trouvent qu'à l'école, on lui demande autre chose.
Actualité, Afrique Monde.
Le G5 Sahel est mort, déclaration sans ambiguïté de Mohamed Bazoum, président du Niger. Dans un entretien exclusif accordé au quotidien français La Croix, le président du Niger donne sa vision des nouvelles autorités du Mali et du départ des forces militaires françaises du pays. Il ajoute, je cite, « L'isolement de Bamako en Afrique de l'Ouest est une mauvaise chose pour toute la sous-région ». Fin de citation. Au 84e jour de l'invasion russe en Ukraine ce mercredi 18 mai, le premier procès d'un soldat russe pour crime de guerre depuis l'entrée des troupes de Moscou sur le territoire ukrainien s'est ouvert mercredi à Kiev. Il s'agit d'un jeune militaire accusé d'avoir abattu un civil.
L'invité.
Le sénateur Jérôme Bikenge s'est dit fortement touché par des conditions socio-économiques de la population du Maniema en général et du territoire de Pangui en particulier. Représentant le président du Sénat à la cérémonie du sacre du nouvel évêque du diocèse de l'église anglicane de Kalima le week-end dernier, Jérôme Bikenge s'est dit surpris de voir le territoire qui fournit les minerais selon lui au pays reste pauvre et sans route. Il pense que quelque part il y a une responsabilité de l'État notamment. Le sénateur Jérôme Bikenge s'entretient à ce sujet avec Florence Kizalunga.
Monsieur le sénateur Jérôme Bikenge Moussimbi, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Fils du terroir, vous avez quitté Kinshasa pour représenter le président du Sénat à la cérémonie du sacre du nouvel évêque du diocèse de l'église anglicane de Kalima. C'est avec quelle motivation?
Bien, j'ai quitté Kinshasa pour venir à Kalima, représenter le président du Sénat, l'honorable Modeste Batilukwebo, dans le but de se joindre à la joie qui était celle des fidèles de l'église anglicane, où Monseigneur Christophe Kangamina Sadiki a été désigné comme l'évêque de la place. Le but était de voir dans quelle mesure le président du Sénat peut se faire une idée de la manière dont l'évêque va pouvoir s'occuper à la fois de sa mission d'évangélisation, de l'éducation et de sa mission de réalisation des œuvres sociales. Il est vrai que le président du Sénat n'est pas un ministre de Dieu, c'est un politique. Mais entre la politique et la religion, il n'y a qu'un pas. Parce que nous participons, nous, en tant que politiques, à des types d'activités qui sont en connexion directe avec la mission de l'Église, à savoir l'enseignement et la réalisation des œuvres sociales.
Vous êtes au courant de la situation socio-économique de la population de Kalima. Qu'est-ce que vous attendez de ce nouvel évêque?
Bien, il n'est pas venu résoudre tous les problèmes sociaux. Il est un évêque et donc c'est pas un politique. Et ce qui est vrai, la situation social dans les territoires des Pangs, de manière générale, est catastrophique. Et de manière particulière, au niveau des Kalima, n'en parlons pas parce que on a érigé l'activité minière comme l'activité principale, tout en oubliant complètement l'agriculture qui se trouve être le centre et même le moteur du développement. Je pense que, à son niveau, avec son programme d'action et les idées qu'il a du développement, il pourra faire quelque chose. Et tout ce qu'il a en tête en termes de programme d'action, s'il est réalisé, je crois qu'il va participer à des solutions sur le plan social permettant à notre population de se prendre en charge.
De Kindu à Kalima, vous avez emprunté la route. Vous avez vu l'état de cette route. En tant que sénateur, ça vous donne quelle idée?
L'état de la route est Kindu Kalima Ipité, parce que l'office des routes qui a travaillé sur la route s'est limité en cours de route, c'est-à-dire à mi-chemin. Ça, c'est le financement, bien entendu, du gouvernement provincial. Notre souhait est celui de voir l'office des routes travailler cette partie de la route, de la RN31 jusqu'à Kalima, pourquoi pas dépasser. Et il n'y a pas que Kalima. Et cette situation que nous venons de vivre, que nous venons de constater, de visu, pourrait être multipliée par 10 à travers la province. C'est là où nous estimons que le gouvernement central devait prendre le taureau par les cornes pour réhabiliter tous ces axes routiers, parce qu'en fait, le développement des 145 territoires de notre pays passe par là.
Alors, vu ces tableaux sombres, que peut espérer la population de votre passage dans cette partie de la province?
En tant que sénateur, nous avons toujours plaidé la cause de la province de manière générale. celle du territoire de Pang en particulier. J'ai eu à m'entretenir avant de venir ici, d'abord avec les responsables de l'office des routes au niveau de Kindu pour que l'on puisse me faire la situation exacte de la route en question. Mais au-delà de cet aspect des choses au niveau provincial, l'obligation nous incombe de prendre contact avec le ministre des Travaux publics au niveau national pour voir qu'est-ce qui était prévu sur toutes les routes de la province de Maniema. C'est cela notre démarche, parce que le minerai de coltan, de la castérite et de wolframite, ces minerais-là qui sont prisés à travers le monde, viennent d'ici. Tout ce qu'il y a comme statistique au niveau de l'Europe de ces trois minerais, ça vient des Kalima. Vous comprenez? Et donc, c'est une ville stratégique. C'est à la fois une ville minière, mais en même temps une ville qui a un rayonnement sur le plan d'exploitation et d'exportation minière, mais qui, in fine, reste une ville qui est pauvre.
Maître Jérôme Bikenge Moussimbi, je vous dis merci.
C'est moi qui vous remercie, Madame la journaliste.
Notre invité répondait aux questions de Florence Kizalunga. C'est la fin de ce journal, supervisé par Alain Rumushinj. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.